Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de vous retrouver, Xavier Martinet, avec les enjeux internationaux, bonjour.
Oui, dans cette matinée pleine de mystères, bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, au programme des enjeux aujourd'hui, le djihadisme au Mali.
Et oui, autre mystère, le Mali dans la salle d'attente politique à 4 ou 5 mois avant les élections, et surtout le mystère sécuritaire avec une multiplication des attaques armées dans le centre du pays, plusieurs groupes impliqués, des peuls, des chasseurs qu'on dit dozo, des djihadistes, des vrais et des faux, c'est ce que vous écrivez dans un article publié dans The Conversation. Bonjour Doukoulogo Alpha Oumar Bakonaré.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être venu, vous êtes chargé de cours à l'INALCO. Alors, à l'époque, en janvier 2013, on se souvient, les groupes armés du Nord avaient tenté une descente vers Bamako. Cette fois, ce sont 500 tués depuis le début de l'année dans le centre, dit un rapport de la FIDH la semaine dernière. 40% des attaques. En fait, ça fait quelques années que ça monte, mais c'est vraiment une explosion cette année 2018.
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'année 2018 a été une année vraiment mortelle, aussi bien pour ce qui est du nombre de civils tués que dans les combats aussi. On a vu une réelle intensification des opérations militaires conduites par l'armée malienne, conduites par la coalition aussi dont l'armée malienne fait partie, avec l'armée française notamment.
D'accord, alors vrai et faux semblant, il faut peut-être prendre les choses dans l'ordre. D'abord la question du djihadisme, justement la semaine dernière l'armée française a attaqué une base d'un groupe qui s'appelait le Front de Libération du Massina et a tué son chef qui s'appelle Amadou Koufa, souvent présenté comme le visage peul d'Al-Qaïda, c'est ce que disait Benjamin Roger de RFI. En quel sens ?
Alors, je pense que les différents groupes armés dits djihadistes dans la zone ont eu des réelles stratégies d'indigéniser leur lutte. Et pour ce faire, ces groupes sont passés par des lieutenants, étant chacun issu d'une des communautés majeures. Et Amadou Koufa, de la communauté Peul, était censé être la personne qui aurait permis le recrutement des Peuls en masse. Et malheureusement, ça s'est pas réellement passé de cette manière-là. Mais en tout cas, il a été le premier instrument de propagande. Il a eu des messages de prêche qui sont adressés spécifiquement aux Peuls, les amenant à prendre les armes pour se rejoindre à eux.
Oui, des messages de prêche spécifiques aux Peuls, assez récents finalement, puisque c'était le 8 novembre seulement qu'il s'est adressé directement aux Peuls, je crois.
Tout à fait. En demandant à ce que les Peuls prennent les armes partout en Afrique de l'Ouest, il faut savoir que les Peuls représentent plusieurs dizaines de millions de personnes. Alors c'est un groupe vraiment très hétérogène qui vit principalement de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Et donc, lorsqu'on voit cette ombre du djihadisme peul planer, ça fait très peur. Ça fait peur aux communautés voisines, ça fait peur à la communauté internationale. Mais on se rend compte que finalement, pour le centre du Mali, le nombre de combattants ne dépasse peut-être pas quelques centaines d'individus. Et lorsqu'il y a des prêches comme ça, en plus de l'impact qui terrorise, il faut vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce que ça change dans les dynamiques sur le terrain.
Alors justement, pour situer un peu ce terrain, on se trouve grosso modo dans un triangle entre Mopti, Tombouctou au nord et puis Ménaka à l'est. C'est un peu le bras du Niger, zone très irriguée avec beaucoup de forêts. Et en même temps, vous expliquez dans votre article que c'est une zone historiquement déjà terre de djihad en un sens précis.
Tout à fait. Aujourd'hui, on parle du djihad actuel en faisant une catastrophe majeure, quelque chose qui n'a jamais eu de précédent. Mais en réalité, on se rend compte que déjà au 19e siècle, il y a eu un grand djihad, le djihad de la création du Massina, ce fameux royaume dont Amadou Koufa parlait en parlant de Front de Libération du Massina. Il y a aussi eu le djihad des tout-couleurs qui a eu lieu à peu près quelques dizaines d'années plus tard. Et ce djihad des tout-couleurs, qui sont aussi une faction des Peuls, c'est un djihad qui a modifié totalement la composition démographique de la zone, du secteur. Mais ce qu'on pourrait aussi dire sur le djihad dans ces endroits-là, c'est que on est dans une période post-djihad finalement. On est dans une période où les sociétés ont connu le djihad, elles ont connu des grands héros du djihad, elles ont aussi connu la défaite du djihad. Et donc finalement, les gens se sont réinvestis religieusement d'une manière beaucoup plus quiétiste.
Et de ce point de vue-là, alors ce front de libération du Massina, vous l'avez déjà suggéré, il y a des interrogations sur sa véritable, disons, portée militaire, hein, on va le dire comme ça. Quelle valeur est-ce qu'il avait ? Est-ce que c'était justement surtout militaire ou propagandiste quand on dit bras armé du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, nouvelle Al-Qaïda au Maghreb, on va dire ?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est propagandiste, mais il faut savoir aussi que le propre des mouvements terroristes, c'est d'avoir des actions qui sont peut-être mineures en termes de nombre de personnes tuées, mais qui ont un retentissement beaucoup plus grand. Et c'est là, finalement, qu'il y a cette asymétrie. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que On n'est pas dans une terre où il y a une tradition martiale. Les gens n'ont pas l'habitude de se battre. Les gens ne vont pas à la guerre. Les gens n'ont pas eu de motivation particulière pour le recrutement. Et donc le nombre de personnes combattant auprès du GSIM ou auprès du Front de Libération du Massina n'est pas très élevé au bout du compte. Et donc on pourrait se demander à quoi servent toutes ces actions qui ont eu lieu pour parler des Peuls, pour parler des autres communautés de la zone. Ben, je pense que c'est aussi pour faire vivre ce spectre d'Al-Qaïda encore aujourd'hui au Mali.
Une situation très différente de cette situation très militarisée en fait du Nord et des factions Touareg. Alors pour qu'il y a également qu'on en dise un mot simplement sur cette stratégie du GSIM. Un autre groupe qui a été très attaqué par l'armée française le 11 novembre, la faction Al-Mansour, son chef Mohamed Ag Al-Qassim a été tué aussi. Est-ce que ça veut dire que cette stratégie du GSIM, donc les groupes djihadistes au nord, dans le centre, est en train d'échouer?
Alors, moi, je dirais plutôt que la stratégie est une stratégie sur un très long temps. Ce qui s'est passé avec le Front de Libération du Massina, on ne sait pas si c'est totalement terminé. Il pourrait y avoir d'autres lieutenants qui peuvent venir, parce qu'il y a quand même eu du recrutement local, quoi qu'on en dise. Et en plus de ça, il faut aussi garder à l'esprit que c'était une expérience, c'était de l'expérimentation qui a été faite avec Amadou Koufa. De la même manière,
une sorte d'opportunisme.
C'était beaucoup d'opportunisme. Et puis on voit que dans d'autres coins du centre du Mali, il y a eu des groupes assez autonomes qui sont arrivés dans des villages, qui ont prêché, qui ont réuni les enfants, qui ont fait s'asseoir tout le monde, qui ont donné une certaine parole, puis qui sont repartis aussitôt après. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la jonction possible avec Ansarul Islam, qui est présent au nord du Burkina Faso. Il y a l'État islamique au Grand Sahara, qui, même si son nom pourrait faire penser le contraire, peut avoir des interconnexions avec Al-Qaïda. On pourrait penser que là, en Afrique, Al-Qaïda et l'État islamique sont vraiment clivés, mais la réalité est peut-être différente. Donc, il faut se dire que il y a un fond de combattants, il y a un fond de radicalisation qui a peut-être pas que des bases religieuses, qui peut avoir des bases sociales, qui peut avoir des bases économiques aussi, et qu'à l'intérieur de ça, Al-Qaïda sera toujours là, toujours en train de chercher la voie d'entrée qui est possible. Mais c'est différent du nord du Mali où les groupes armés sont beaucoup plus structurés, où même s'il peut y avoir une pénétration, il y a beaucoup plus de tensions, beaucoup plus de combats. Au centre du Mali, il y a vraiment un espace à remplir.
Oui, sans compter justement, enfin, ce qui explique peut-être du coup cette grande opacité dans les combats, dans les exactions, les meurtres qui sont rarement revendiqués dans ce centre. Alors quand vous dites entre faux djihadistes justement et faux groupes de chasseurs, en gros dans cet article vous expliquez qu'il y a des peuls qui se plaignent d'être soupçonnés en bloc et ciblés, et puis des chasseurs qu'on dit dogons accusés à tort à la place d'autres groupes de chasseurs d'ozo, mais eux-mêmes pas forcément des groupes d'autodéfense en fait.
C'est vrai qu'il y a vraiment une constellation de personnes armées dans la zone. Il y a ceux qui sont djihadistes, bon voilà, qui sont d'obédience diverse. Il y a les groupes armés qui se disent d'autodéfense, qui peuvent être des groupes armés de la communauté Peul, qui peuvent être des groupes armés de la communauté Dogon, qui peuvent être des groupes armés de la communauté Bambara. Après, il y a des chasseurs qui peuvent être des chasseurs en confrérie, comme ceux qu'on appelle les Dozo, à ne pas confondre avec les Dogons. Les Dogons sont une communauté ethnique, on va dire.
Et alors, ces Dozo vraiment des chasseurs ou des porteurs d'armes
Alors, les Dozo, ceux qui sont dans les confréries, sont vraiment ceux qui ont reçu une initiation ésotérique. Mais il y a justement ces autres personnes-là qui sont en tenue de chasseurs, qui essaient d'emporter les attributs et la légitimité aussi, parce que ce sont des gens normalement très respectés, mais qui en réalité font une mainmise sur des zones entières, sur les trafics d'armes, qui sont aussi là à contrôler les mouvements de population et qui sont des acteurs de la terreur à part entière, tentant même dans certains endroits de faire de l'épuration ethnique contre les communautés civiles peules qui sont là.
Et alors, justement, ces communautés civiles peules, dernière question, le rapport FIDH disait prise au piège dans ce jeu. C'est vrai qu'il y a également des questions qui se posent sur l'action des FAMA, les forces armées maliennes. Les peules ont parfois accusé l'armée d'encourager des exactions, notamment relativement à cet épisode de la découverte de fausses communes. C'était à Nantaka et Kobaka, je crois que c'est un peu au nord de Mopti, vraiment pas très loin, en juin dernier. Qu'est-ce qu'il en est? Évidemment, ça a été démenti par l'armée malienne. Mais est-ce que ces Peuls sont des cibles un peu aveugles parce qu'on les considère comme soutien au terrorisme globalement?
Alors les Peuls sont vraiment des cibles pour beaucoup de raisons, mais vraiment pour schématiser, les Peuls sont des victimes parce que ce sont des gens qui possèdent de la richesse qui est visible, ce sont des gens qui possèdent du bétail. Les Peuls sont des victimes parce qu'il y a souvent des effets de revanche où certains militaires ont été victimes, ou alors certains civils d'autres communautés ont été victimes. Donc voient les Peuls en se disant, mais aujourd'hui Al-Qaïda dit vouloir faire le djihad avec les Peuls, donc les djihad sont les coupables. Et puis les Peuls sont les victimes aussi parce qu'on est dans un environnement sahélien où les gens sont livrés à eux-mêmes et où finalement c'est très facile de faire de l'opportunisme et de saisir les personnes qu'on a autour de soi. Et comme les Peuls n'ont pas une tradition martiale, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle ils ne peuvent pas se constituer en groupe d'autodéfense, ou même lorsque ça se fait, de toute façon, ça a les effets calamiteux qu'on connaît.
Une opacité qui profite à beaucoup de monde, mais sans doute pas aux Peuls pour le moment. Merci beaucoup en tout cas pour vos explications, Dukologo Alpha Oumar Ba Konaré. Et puis on renverra à votre article publié dans The Conversation, évidemment, sur le site de France Culture. Merci et bonne journée.
Bonne journée.